Le livre « Corps à corps, fertilité, grossesse et parentalité », tome 2 de « Corps à corps », en fait, qui vient de paraître aux éditions Remue-Ménage. C'est un livre qui comporte un intérêt particulier pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. C'est un livre qui parle de beaucoup de questions, mais ces questions-là, des questions dont on parle, peuvent les toucher directement dans un monde qui n'est pas toujours très ouvert pour elles. Pour en discuter, je reçois une des personnes co-autrices qui fait partie du collectif derrière tout ça. Elle s'appelle Nesrine Bessaï. Bonjour Nesrine.
Bonjour Denis.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors, chaque nouvelle personne qui vient à l'émission, on lui demande quel accord et quel pronom on utilise avec toi.
J'utilise le pronom « elle », mais des fois « y'elle » dans... Ça passe.
Quand on est dans un groupe,
mais oui, ça d'accord. Marche.
Nesrine, tu permets que je te tutoie.
Tout à fait.
Tu es anthropologue, professeur au département de sexologie de l'UQAM, spécialiste de la mise en pratique de l'intersectionnalité. Tu consacres ton action et tes recherches à la justice reproductive. Tu es également traductrice. C'est beaucoup de monde à messe, hein?
Ça fait beaucoup de chapeaux, oui.
Alors, parlons de corps à corps. C'est le deuxième tome. Je l'ai lu. Je le dis d'emblée, c'est un livre qui est très facile à lire, malgré le fait que c'est quand même une brique, là.
C'est une brique, effectivement. Ouais, ouais.
Et c'est donc des traductions, le premier tome et celui-ci qui est le deuxième, de Obos, Our Bodies, Ourselves. C'est quoi ça, Obos?
Our Bodies, Ourselves, c'est un classique de santé des femmes. C'est à la fin des années 60, début des années 70, le démarrage du mouvement de santé des femmes aux États-Unis. Ça a été ça, un peu, c'est l'image, je ne sais pas si vous avez cette image-là, moi j'ai ça dans la tête, là, les rencontres de cuisine où des femmes partageaient leur vécu, puis au fur et à mesure, en partageant ce vécu-là, prendre conscience des oppressions communes qu'elles vivaient, et donc à partir de là, se mettre en action aussi pour changer les choses. Puis ça a été Our Bodies, Ourselves, un déclencheur du mouvement de santé des femmes aux États-Unis, puis par la suite à travers le monde aussi.
Et c'est un peu ce qui est arrivé ici, parce que c'est aussi un collectif qui a traduit. Parlons de ce collectif qui s'appelle, l'accord féministe.
L'accord féministe.
Alors, on va le dire, c'est L-A et C-O-R-P-S. Alors, c'est l'accord féministe.
Donc, c'est la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe.
Oui.
Puis là, on est 6. Pour faire ce volume-là, on était 10. Mm-hmm. Donc, on travaille entre nous beaucoup à déconstruire, à construire notre pensée, en fait, et aller chercher chacune les angles morts aussi, voir, avoir différentes perspectives sur un sujet. Puis, on travaille beaucoup avec des organismes communautaires. On va chercher auprès des organismes des témoignages de gens qui vivent les situations de plein fouet, puis aussi des personnes, des analyses aussi qui viennent des organismes, des collectifs militants. Des analyses critiques donc sur la défense de droits des personnes marginalisées. Donc c'est vraiment un projet qui est participatif dans ce sens-là où c'est une traduction au départ, mais il y a une grande part d'adaptation au Québec avec des collaborations avec des organismes, avec des témoignages qu'on a fait des entrevues de groupe aussi. On est allé chercher, comme par exemple, les organismes avec la Coalition des familles LGBT, avec un service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes à Québec. Enfin, il y a plusieurs organismes qui ont participé aussi.
Je t'interromps parce qu'il y a une chose qui est importante de dire, ce n'est pas un ouvrage scientifique, c'est quand même un ouvrage qui a beaucoup de références, mais il y a trois sortes de savoirs que vous partagez, ce qui fait que c'est accessible pour tout le monde.
Oui, c'est la recette, on va dire, de Our Bodies, Ourselves, hein, cette recette-là qui va mettre ensemble des savoirs scientifiques. Donc là, nous, on les vulgarise, mais c'est fondé sur des recherches scientifiques en sciences sociales, en sciences de la santé. Donc des savoirs scientifiques, des savoirs expérientiels, des témoignages qui viennent des personnes qui ont vécu différentes situations, différentes oppressions, qui vont les partager. Puis des savoirs critiques, qui là, ça vient vraiment avec les organismes communautaires, le milieu militant, comme le fait que les personnes partagent leurs expériences d'oppression, mais graduellement, il y a une vision aussi de l'oppression, de comment elle s'articule, puis une vision critique. Donc, c'est ça, les savoirs critiques. Les savoirs scientifiques auxquels on fait appel sont aussi des savoirs qui sont informés là, par les aspects critiques, les aspects anti-oppression. Donc, on met ces trois choses ensemble dans l'objectif de permettre aux personnes de prendre des décisions encore plus éclairées, parce que là, tu as vraiment une vision large d'une situation, d'un problème, des différents choix qui peuvent se présenter à toi.
C'est vraiment un guide de santé aussi. Il y a beaucoup de « how to », comment faire et tout ça. Vous parlez de beaucoup de choses qui touchent nos communautés queer ici à l'émission, dont vous avez parlé de la parentalité. Et vous avez parlé à Mona Greenbaum. Je vais me permettre de faire une petite insertion ici. Vous savez que Mona Greenbaum est la co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT+, et qui vient de remporter une grande victoire sur la question de la pluriparentalité. J'ai parlé à Mona un petit peu plus tôt, on va l'écouter.
Bonjour, Mona Greenbaum, co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT+ du Québec. Hey, c'est une bonne nouvelle?
Mais c'est une fabuleuse nouvelle, c'est vraiment incroyable, c'est quelque chose qu'on veut depuis des années, c'était une grande lutte, mais on a réussi, on a eu un jugement positif juste vendredi passé pour dire que comme de ne pas reconnaître les familles pluriparentales au Québec, c'est anticonstitutionnel.
Donc, ça veut dire quoi, là, pour pratico-pratique, pour les familles qui se retrouvent dans ces situations-là?
Mais c'est pas encore ce que ça fait, le jugement, c'est que le juge maintenant ordonne le gouvernement à changer ses lois dans les prochaines 12 mois. Donc pour le moment, rien n'a changé, mais le gouvernement a obligé de modifier 44 articles dans le Code civil pour reconnaître légalement ces familles. Donc, ce que ça donne, c'est que ces familles, mais les parents vont avoir maintenant les mêmes droits et les mêmes obligations que toutes tous les autres parents dans les autres familles. Puis les enfants, surtout les enfants, vont avoir les mêmes protections.
Donc, ça veut dire on pourrait avoir des familles où peut-être c'est deux femmes qui ont fait appel à un donneur et puis les trois vont être parents de cet enfant-là. Donc, c'est les droits de filiation là, qu'on peut voir.
Oui, exactement. C'est la filiation. Et puis, il ne faut pas comme mêler comme une famille avec un donneur versus une famille avec un père. Okay? Donc, ça va continuer que les lesbiennes qui veulent juste avoir un donneur vont être juste deux parents sur l'acte de naissance d'un enfant. Mais dans certaines familles, on veut que ce donneur soit impliqué comme parent, comme papa de l'enfant. Donc, dans ces cas-là, comme les trois parents peuvent être reconnus légalement, comme sur l'acte de naissance de l'enfant, puis ça va donner comme toutes les protections qui viennent avec ça. Et la reconnaissance sociale aussi.
Donc, c'est une nouvelle aussi pour toutes ces familles qui sont peut-être composées, où il y a des familles où c'est un trouble, ou plusieurs, ce qu'on appelle des couples polyamoureux, et toutes ces personnes-là vont être capables d'avoir cette responsabilité-là reconnue. Parce que ce n'est pas juste un droit, c'est aussi une responsabilité qui vient avec ça. C'est l'enfant qui va gagner au bout du compte, là.
C'est ça, exactement. Et puis juste pour dire que comme c'est pas juste les familles polyamoureuses, même si ça peut être des parents polyamoureux, mais dans la grande majorité des cas, les personnes sont pas comme dans des relations conjugales. C'est comme ils sont dans une relation parentale avec leur enfant. Donc oui, ça peut être deux lesbiennes avec un homme, ça peut être deux hommes gays avec une personne porteuse, ça peut être d'autres raisons comme des amis qui décident ensemble de fonder une famille. Et aussi, il faut savoir que c'est pas juste dans le monde LGBTQ+ non plus. Ça touche plein de personnes hétérosexuelles, cisgenres aussi, qui vont avoir, comme tu dis, tous les mêmes droits et les mêmes responsabilités que toutes les autres familles.
Eh bien, on va revenir là-dessus la semaine prochaine plus en détail, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui.
Donc,
Ça fait plaisir.
une décision importante parce qu'il y a beaucoup dans votre livre, dans ton livre, il y a beaucoup d'aide pour les personnes ou beaucoup de suggestions, beaucoup d'informations pour les personnes queer. Et concrètement, parce qu'il y a un truc que je pense qui est important dont tu veux parler.
Oui, il y en a plusieurs qui sont importants, Denis.
Mais en fait, oui, j'en
Oui, il
conviens.
y en a plusieurs qui sont importants, en fait, dans corps à corps, fertilité, grossesse et parentalité. C'est qu'on veut justement s'adresser à toutes les personnes qui sont principalement des personnes qui vont être intéressées par un projet parental, d'avoir un projet, d'avoir un enfant dans leur vie. Puis là, bien, on ouvre ça vraiment. Là, c'est toutes les différentes façons d'avoir un enfant dans ta vie. C'est pas nécessaire de l'avoir porté dans ton corps. Ça peut être aussi un enfant duquel tu es un adulte significatif dans sa vie. Donc, on parle des familles choisies, de la pluriparentalité, comme parlait Mona juste à l'instant. Puis aussi, je pense qu'en français, on propose une ressource quand même assez rare sur, pour les hommes trans, en fait, par rapport à différentes étapes, par rapport à vouloir être enceint, qu'est-ce qu'on fait, et si on est en train de prendre des hormones, comment ça interagit, est-ce qu'on les arrête, comment on procède. Puis aussi, on donne à voir toute une liste, dans le fond, sur les effets secondaires de ces différentes hormones qui sont utilisées aussi dans la procréation médicalement assistée. Donc, l'approche qu'on a par rapport à ça, parce que dans notre livre, nous, on veut donner la voix, donner de la place à différentes perspectives qui sont féministes. Et dans ce sens-là, ben, tu sais, il y a des féministes qui en veulent des hormones, des féministes qui n'en veulent pas des hormones, des féministes qui veulent des interventions chirurgicales, des féministes qui ne veulent pas d'interventions chirurgicales. Il y a de tout ça, hein, autour de la grossesse. Puis, c'est de donner cette place-là, puis de donner les informations pour que les gens puissent prendre des décisions. Et là-dessus, c'est important d'avoir une décision autant pragmatique. Donc, tu veux savoir quels sont les effets pour pouvoir prendre la meilleure décision pour toi, parce que peut-être qu'un effet va être insupportable pour quelqu'un. Puis pour une autre personne, ben, elle essaye de résoudre un problème que cet effet secondaire-là lui paraît vraiment moindre par rapport au problème qu'elle essaye de résoudre. Donc, c'est important de garder cette vision pragmatique, mais aussi d'être en résistance, parce que faire attention à connaître les effets secondaires, parce que les compagnies pharmaceutiques n'ont aucun scrupule, comme on le sait. Donc, c'est faire cet équilibre-là. Je pense qu'on offre à voir ça en français, puis il y en a pas beaucoup de disponibles.
C'est toute une première en français. Je voudrais remercier donc Nesrine Bessaï de la collectif L'Accord féministe pour ce livre qui s'appelle « Corps à corps, fertilité, grossesse et parentalité, tome 2 ». Il faut vraiment se revoir. On va te réinviter à l'émission. Merci beaucoup,
Nesrine. Merci beaucoup, Denis.
Merci.